Bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue à cette deuxième soirée de notre campagne à Béthanie. Nous avons commencé hier. Hier, nous avions vu le chef-d'œuvre de la création. Spécialement, nous étions concentrés sur la cellule que Dieu a créée. Et aujourd'hui, nous continuons aussi avec le message de la santé, avec les huit principes, les huit lois du message de la santé. Et on va comme on a fait hier, c'est-à-dire faire un lien entre le physique et le spirituel, mais aujourd'hui on va plus partir du spirituel et faire des liens avec le physique. Juste avant de commencer, j'aimerais prier encore avec vous. Ça fait que je vais me mettre à genoux. Ceux qui peuvent, mettez-vous à genoux aussi. Ou si vous ne pouvez pas, courbez la tête pour la prière. Éternel, notre Père, notre Dieu, merci infiniment pour les principes que tu as mis dans ta parole afin que notre corps soit en pleine santé pour notre bien-être et pour te servir. Et pour aussi le bien-être de nos proches, car tout le monde se réjouit lorsque ses proches sont en santé. Permets que les principes spirituels et physiques que nous allons voir aujourd'hui nous aident à améliorer ce que nous avons à améliorer, découvrir ce que nous avons à découvrir et ne pas perdre de vue la mission qui est d'être des instruments pour toi. Que ce soit toi qui parles ce soir et que ce que je dise vienne de toi et que tu fasses le filtre afin que le message passe correctement. C'est en ton Fils Jésus que nous avons prié. Amen. Donc, du 17 au 19 mai 2013, l'année passée, nous avons fait un camp d'entraînement biblique, des amis et moi, qu'on appelle Jaffa. Le groupe s'appelle Jaffa pour jeunes ambassadeurs francophones adventistes. On a fait un camp d'entraînement biblique dont le thème était l'Exode. Et ce qu'on voulait faire dans ce camp, c'était parler spécialement du message de la santé. On s'est dit que c'est un des aspects vraiment importants dans la Bible, mais dont on ne parle pas souvent. Et on a fait un camp spécialement sur le message de la santé de 3 jours, donc vendredi à dimanche. Tous les messages, toutes les présentations, tous les ateliers, toutes les activités pratiques, la nourriture que l'on cuisinait, les gens qui apprenaient à cuisiner, tout était axé sur le message de la santé. Et nous avons fait le poster suivant, c'était le poster pour promouvoir l'événement. Et vous vous rappelez, hier, on a vu rapidement qu'on a divisé les lois physiques que Dieu a données dans sa parole en 8 principes. Ce sont les suivants. Donc on a dit, c'était la nutrition, l'exercice, l'eau, le soleil, la tempérance, l'air, le repos et la confiance en Dieu. Donc pour chaque thème que l'on fait dans ce camp d'entraînement biblique de Jaffa, on fait un poster qui illustre le thème, bien évidemment. Et dans cette image, il y a les 8 lois de la santé. Les 8 principes sont là. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer pour que vous puissiez partager la joie que nous avions lorsqu'on est venu avec ça. C'est qu'ici, c'est censé représenter, le thème c'est l'Exode. Il y a un livre dans la Bible qui s'appelle l'Exode, lorsque Dieu a pris son peuple et les a fait sortir d'Égypte pour les emmener dans la terre de Canaan. Ils sont passés dans le désert, ils sont restés dans ce désert pendant 40 ans. Et le moyen que Dieu a utilisé pour les nourrir, c'était de faire descendre la manne du ciel, la nourriture descendait du ciel carrément. Donc là, ça représente quelqu'un qui est à genoux et qui reçoit la manne. Les petites boules que vous voyez, la manne qui descend du ciel. C'était leur nourriture. C'était de la bonne nourriture que Dieu avait fait descendre du ciel. D'ailleurs, c'est lorsque les Israélites ont vu la manne la première fois, ils se sont dit, qu'est-ce que c'est? Parce qu'ils se demandaient, c'est quoi? Ils n'avaient jamais vu cette nourriture. Et c'est là qu'on a donné le nom manne, parce qu'il faut croire que là, ça veut dire, qu'est-ce que c'est? Mais c'était la nourriture saine dont ils avaient besoin. Et quand on présente le message de la santé à des gens, et on présente la nourriture saine dont les gens ont besoin, souvent ils ont la même réaction. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Ben, c'est la manne. C'est ce dont vous avez besoin pour être en bonne santé. L'autre chose, c'est que la manne, c'est juste la nourriture, ce qu'on mange. Mais maintenant, pour boire, il y avait le rocher auquel Moïse parlait et l'eau sortait du rocher. Et ainsi, ils pouvaient être nourris, ils pouvaient aussi boire. Donc, ils avaient tout ce dont ils avaient besoin dans le désert. Donc j'ai dit les 8 principes sont là. Donc on a dit premièrement, nutrition. Ben, c'est simple. Donc professeur, ça correspond à quoi? C'est la manne qui descend, n'est-ce pas? Ensuite on a dit l'exercice. Chaque jour, la manne ne tombait pas dans votre assiette. Il fallait vous lever, il fallait faire l'exercice pour aller chercher cette manne et la ramener chez vous. Donc, à travers l'exercice de la manne, Dieu, à travers le don de la manne, pardon, Dieu les faisait faire de l'exercice. Ensuite, on a dit l'eau. Ben, c'est simple, le rocher, n'est-ce pas, de quel l'eau sortait pour qu'ils aient suffisamment d'eau pour boire. On a dit le soleil. Ben, que lorsqu'on sortait pour prendre la manne, ben, sincèrement, on prenait du soleil. On prenait l'air frais aussi. La tempérance. C'est mentionné que chacun prenait la proportion dont il avait besoin. Personne n'en avait trop, puis personne n'en manquait. Donc, c'était la tempérance. Le repos, parce que la manne, Dieu ne la donnait pas 7 jours sur 7. Il a donné 6 jours sur 7, sauf le 7e, qui est le sabbat, le 7e jour. Donc, dans le don de la manne, il leur enseignait le repos. Merci, monsieur. Dans le don de la manne, il leur enseignait le repos. Et la confiance en Dieu, ben parce que pour être nourri dans le désert, il fallait avoir confiance que Dieu allait faire descendre la manne. Donc c'était un exercice de foi que de manger la manne. Et ceux qui manquaient de foi ben, se plaignaient et voulaient la nourriture qu'il y avait en Égypte. Donc là-dessus, nous allons baser la présentation d'aujourd'hui. Vous trouvez cette image intéressante? Dans les années 90, les gens étaient maigres, puis ils avaient des gros téléviseurs. Puis en 2008, les gens ont des écrans plats, mais ils sont gros. Le style de vie est allé en se gâchant, n'est-ce pas? Ça fait que les gens ne sont pas toujours en bonne santé. Et comme on l'a dit hier, c'est souvent une question de style de vie. C'est souvent un choix. Ce n'est pas par hasard qu'on est en santé ou en mauvaise santé. C'est sûr, il y a des choses héréditaires, il y a des choses qui nous échappent, mais nous avons quand même le contrôle sur beaucoup d'aspects. Donc, essayons de gérer ce sur quoi nous avons le contrôle. Le sanctuaire est le message de la santé. Lorsque ce peuple était dans le désert, Moïse a reçu des instructions pour construire un sanctuaire, un tabernacle dans lequel Dieu allait habiter au milieu d'eux. Et il a reçu ses instructions pendant qu'il était sur la montagne, parce que ça devait illustrer tout le plan du salut, et puis nous allons voir cela en détail. Et à travers ce sanctuaire, il a illustré des lois de la santé. Donc ce qu'on avait étudié, ce qu'on avait partagé ensemble, je partage ça avec vous ce soir. Dans le livre de Corinthiens, dans le Nouveau Testament, qui est 1 Corinthiens chapitre 3 et verset 16, il est écrit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc le temple de Dieu, le sanctuaire, c'est un modèle de notre corps, c'est un modèle du temple que nous sommes pour Dieu. De la même manière que Dieu voulait habiter dans ce temple physique, il veut habiter dans le temple qui est notre corps. Donc, je dis, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Toujours dans le chapitre, si on poursuit, au verset 17, c'est dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Encore là, ça a l'air d'un gros jugement terrible, mais c'est tout simplement le principe que si on ne prend pas soin de notre corps, ben, notre corps ne va pas être en santé. C'est aussi simple que ça. Verset 17, j'ai pris une autre version parce que vous savez, il y a différentes versions de la Bible qui peuvent faire ressortir différents aspects pour pouvoir bien illustrer le point que je vais vous donner. C'est-à-dire, si quelqu'un corrompt le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et tel vous êtes. Si quelqu'un corrompt ou si quelqu'un souille, de la même manière, dans l'ancien temple, le temple physique que Moïse devait construire, il y a le même terme qui est utilisé. Dans Ézéchiel 5, verset 11, c'est écrit « C'est pourquoi je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que tu as souillé mon sanctuaire par toutes tes idoles et toutes tes abominations. » Donc le sanctuaire physique pouvait être souillé. Et Dieu avait mis un système pour le purifier, parce qu'il pouvait être souillé, il pouvait être purifié également. Donc on se rappelant un peu de comment est-ce que Dieu purifiait le sanctuaire, ou qu'est-ce qu'il pouvait souiller le sanctuaire, nous allons, contrairement à hier, nous sommes partis du physique pour faire des applications spirituelles, nous allons aujourd'hui partir du spirituel pour faire des applications physiques, à comment est-ce que notre temple peut aussi être souillé, mais que Dieu veut qu'il soit pur, qu'il soit purifié. Ézéchiel 5, verset 11, toujours, c'est dit « Moi aussi, je retirerai mon œil et mon œil sera sans pitié. Moi aussi, je n'aurai point de miséricorde. » Ok, le sanctuaire. Je vous... parce que peut-être il y en a qui n'ont jamais vu ça, le sanctuaire, donc j'aimerais... Il y a quelques images pour vous aider à comprendre, pour illustrer ce que nous allons présenter ce soir. Alors, voici à quoi ressemblait le sanctuaire à l'époque. Il y avait une clôture qui faisait tout le tour donc du sanctuaire, et la porte se trouvait, vous voyez, lorsque vous allez par là, là, l'entrée se trouvait à ce qui est en brun sur l'écran. Vous entrez, vous trouviez un premier article qui s'appelle l'autel des sacrifices, sur lequel tous les animaux étaient posés et offerts en offrande pour le pardon des péchés des hommes. Donc, la personne venait avec un animal, confessait les péchés sur la tête de cet animal, l'animal était sacrifié sur l'autel, et ainsi les péchés de la personne étaient pardonnés puisqu'ils étaient transférés sur l'animal. Ensuite, on arrivait à l'autel, la cuve d'airain, pardon, où il y avait de l'eau. Parce que les prêtres qui faisaient ce travail de sacrifier les animaux, ils avaient beaucoup, il y avait du sang sur eux, donc ils allaient se nettoyer, ils allaient se laver là où se trouvait la cuve d'airain qui était remplie d'eau. Ensuite, on rentrait dans le bâtiment vraiment du sanctuaire qui n'était pas très grand, mais qui était divisé en deux parties, le lieu saint et le lieu très saint. Dans le lieu saint se trouvaient trois articles. Sur la partie supérieure, en haut, vous aviez le chandelier d'or avec sept branches. Sur la partie qui est en bas, vous voyez deux petits disques, vous avez la table des pains de proposition sur laquelle il y avait différents pains qui étaient mis, qui servaient à la nourriture des prêtres dans le temple. Ensuite, lorsque vous rapprochez de la dernière partie du sanctuaire, vous aviez un dernier article du lieu saint qui s'appelle l'autel des parfums sur lequel on brûlait de l'encens, la fumée montait et ça représentait la prière des gens. C'était parce que le prêtre brûlait de l'encens et cette fumée qui montrait, qui représentait la prière, l'intercession du souverain sacrificateur ou l'intercession de Dieu lui-même faisait en sorte que la colère de Dieu ne tombait pas sur le peuple. Et finalement, dans la dernière pièce, le lieu très saint, le saint des saints, vous aviez le dernier article qui est l'arche de l'alliance, dans laquelle se trouvent les deux tables des dix commandements et puis d'autres choses que nous allons voir plus tard. Donc voici brièvement à quoi ressemble le sanctuaire aujourd'hui, donc, enfin à l'époque, et voici une vision sous un autre angle. Alors là, c'est une petite vidéo, est-ce que tu peux la lancer, Mathieu, s'il te plaît, pour une petite animation sur le sanctuaire. Donc il y a une petite visualisation 3D, comme ça quand on fera les parallèles tout de suite, vous allez être en mesure de me suivre. Pour ceux qui connaissent, tant mieux, puis pour ceux qui ne connaissent pas, ce sera plus facile. Donc on rentre ici par la porte que je décrivais tout à l'heure. Là, vous voyez les animaux qui étaient brûlés sur l'autel des sacrifices, la cuve d'airain remplie d'eau. Maintenant on rentre dans le temple en tant que tel, chandelier d'or, table des pains de provision, autel des parfums, arche de l'Alliance. Ok, bon. Ouais, ça allait vite sur la fin. Ensuite, il y a une deuxième petite vidéo. Tu peux la lancer, s'il te plaît, Mathieu, pour qu'on puisse voir plus en détail ce qui était à l'intérieur. Okay? Donc, table des pleins de propositions. Vous voyez des piles. Ensuite, le chandelier d'or qui a sept branches. L'autel des parfums. Et l'arche de l'Alliance, le dernier article. Ok. Ceci étant dans vos esprits maintenant, fraîchement imprégné dans vos esprits, vous allez pouvoir me suivre sur les applications que nous allons faire. On va voir les rapports entre le sanctuaire physique et le corps humain, parce qu'il y a des liens à faire entre les deux. Ok, premièrement, donc voici le sanctuaire et apparemment le corps humain, on va faire des liens entre les deux. Dans Exode chapitre 26 et le verset 14, c'est parmi les instructions qui étaient données pour la construction du sanctuaire, c'est écrit « Tu feras pour la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de dauphin par-dessus. » Donc si le sanctuaire est un modèle de notre corps, le sanctuaire n'était pas couvert de n'importe quel tissu, il était couvert de peau d'animaux. Tout comme notre corps, il est couvert de... Il est couvert de peau. Donc l'aspect extérieur représente notre corps, la peau, la surface. Peut-être qu'il y en a qui se demandent pourquoi il y avait autant d'animaux qui étaient sacrifiés, pourquoi est-ce que c'était aussi, morbide. Ben, c'est parce que Dieu voulait montrer par là à quel point le péché est odieux. À chaque fois qu'un animal mourait, eh ben, il voulait qu'on se rappelle que c'est parce que nous péchons que cela se produit. Donc si nous cessons de pécher, plus de sacrifices. Puis aujourd'hui, bien sûr, on n'a plus besoin de sacrifier des moutons, ni dans un sanctuaire, ni dans notre sous-sol, parce que Jésus a déjà fait le sacrifice ultime. Donc, tu es couvert de peau. Maintenant, à quelle partie du corps correspondent les différents articles du sanctuaire? Alors, dans Hébreux chapitre 8 et le verset 10, c'est écrit « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Donc, la loi de Dieu, elle est écrite dans l'esprit, au niveau du cerveau, au niveau de la tête. Donc, dans le sanctuaire, où se trouvait la loi de Dieu? Ça se trouvait dans la partie qui appelait le lieu très saint, dans l'arche de l'Alliance, c'est là que se trouvait la loi de Dieu. Donc si ça correspond à notre esprit, ça veut dire que l'arche de l'Alliance, l'article, ça correspond à quelle partie du corps? La tête, le cerveau. Donc c'est comme le saint des saints, c'est le lieu très saint de notre corps, le cerveau. Ça que dans le lieu très saint, c'est pas n'importe qui rentrait, c'était seulement un souverain sacrificateur qui représente Dieu. De la même manière, Dieu veut que ce soit pas n'importe qui rentre, qui prenne possession de nos pensées, mais que ce soit seulement Dieu par le Saint-Esprit. Ensuite, on trouve l'autel des parfums. On se dit que c'était la prière. Donc quand on prie, c'est comme si on ouvre notre cœur à Dieu. C'est pour ça que l'on prie. C'est-à-dire l'autel des parfums qui représente la prière qui monte vers Dieu, ça correspond à notre cœur. Donc vous avez arche de l'alliance, cerveau. Ensuite, vous avez autel des parfums, cœur. Plus bas, sur on peut commencer par la gauche, vous avez le chandelier d'or qui brûle. Avec sept branches, c'est du feu. C'est-à-dire que ça brûle de l'oxygène, ça dégage du CO2. Qu'est-ce qui en nous brûle de l'oxygène et dégage du CO2? Ce sont nos poumons, n'est-ce pas? Donc, c'est cœur puis poumon. Et de l'autre côté, vous avez la table des pains de proposition. Qui ont, des pains, il y avait 6 pains plus 6 autres pains, donc il y en avait 12 au total. Et de la même manière que la table des pleines propositions et le chandelier d'or sont situés au même endroit, eh ben, nos poumons et ceux qui sont représentés par la table des pleines propositions, les 12 paires de nos côtes, on a 12 paires de côtes, de la même manière qu'il y avait 12 pains, eh ben, c'est cette partie de notre corps qui est représentée par la partie inférieure du lieu saint. Ensuite, lorsque l'on sort, on vient trouver la cuve des reins remplie d'eau, où il y avait la purification. On rappelait hier que le corps, il nettoie ce qui se trouve à l'intérieur de plusieurs manières, et une des façons, c'est avec les reins, qui purifient tout et puis qui font une évacuation liquide de tout ce qui est mauvais dans notre corps. Donc, la cuve des reins ici correspond aux reins qui nettoient le corps avec l'eau, qui nettoient le sang des impuretés. Et finalement, lorsqu'on descend plus bas, il y a là où les animaux sont consumés, là où la nourriture est consumée. Quelle partie de notre corps consomme la nourriture? L'estomac, n'est-ce pas? Puis l'intestin, puis tout le système digestif. Donc, l'autel des sacrifices, ça représente notre système digestif. Donc, vous êtes avec moi? Autel, arche de l'alliance, cerveau. Autel des parfums, cœur. Chandelier d'or, étape des pleines propositions, poumon, cage thoracique. Cuve des reins avec l'eau, nos reins, système de drainage. Ensuite, consommer les aliments, notre système digestif. Maintenant, quel type d'animal était sacrifié dans le sanctuaire? Ça, c'est intéressant à voir, parce que si l'autel de sacrifice représente notre système digestif, vous savez que ce n'est pas n'importe quel animal qui allait sur l'autel. Ce n'est pas n'importe quel animal. Il y avait des conditions. Par exemple, est-ce qu'on pouvait mettre un porc là-dessus? Est-ce qu'on pouvait sacrifier un porc? Donc si le temple, ça nous représente nous, est-ce qu'il y a un porc qui doit descendre ici? Non. C'était seulement les animaux purs qui pouvaient être sacrifiés sur l'autel des sacrifices. De la même manière, nous, Dieu nous appelle à manger seulement des animaux purs et pas d'animaux impurs. Autre chose, dans Lévitique 1, verset 3, c'est écrit « Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. » Donc c'était un animal sans défaut qui devait rentrer là. Nous devons faire attention à la qualité de la nourriture qui vient dans notre système digestif. On ne doit pas mettre n'importe quoi dans notre corps. C'est des parallèles que Dieu voulait que l'on fasse. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. La circulation sanguine est aussi illustrée à travers le sanctuaire, parce que la personne rentrait avec l'animal, sacrifiait, prenait son sang. Le prêtre prenait ce sang-là, rentrait dans le sanctuaire, venait l'asperger sur les différents articles, et une fois par an, c'était aspergé sur le propitiatoire, puis il ressortait, et puis il sacrifiait un autre animal pour le péché du peuple. Donc il y avait sans cesse du sang qui faisait des va-et-vient dans le sanctuaire, de la même manière que dans notre corps, le sang circule et fait des va-et-vient partout dans notre corps. Les différents systèmes sont illustrés là, comme on l'a vu un peu. Donc, le cerveau, le système nerveux avec l'arche de l'Alliance, le système cardio-respiratoire avec les poumons et le cœur, le système rénal avec les reins, le système digestif, estomac, colon, et le système circulatoire, le sang. Donc, nous fonctionnons comme le sanctuaire. Donc, ce qui était bon pour le sanctuaire doit être bon pour nous, ce qui n'était pas bon n'était pas bon pour nous. Autre aspect, en comparant les deux, quel type de feu y avait-il dans le sanctuaire? Parce que vous voyez, il y avait du feu, là, le chandelier d'or brûlait constamment, et il y avait plus loin la lumière que vous voyez tout au fond, qui représente ce qui est la gloire de Dieu qui se manifestait. Donc, c'était Dieu qui prenait une forme et qui se manifestait sous une forme de boule de feu à l'intérieur. Seulement le souverain sacrificateur pouvait rentrer là. Donc il y avait ce feu-là, qui était la présence de Dieu, et puis il y avait les chandeliers d'or qui éclairaient tout le sanctuaire. C'est comme ça que c'était éclairé. Mais quel type de feu? C'était seulement du feu qui venait de Dieu directement. Donc je ne pouvais pas aller puis allumer une allumette, puis aller mettre le feu sur le chandelier, ça ne fonctionnait pas comme ça. Il fallait qu'on fasse un sacrifice sur l'autel des sacrifices. Mais non, le feu descendait du ciel par Dieu directement, consumait l'offrande, et de ce feu-là, j'en prenais, puis j'allais allumer maintenant le chandelier dans le sanctuaire. Mais il y en a qui ont, une fois, qui n'ont pas suivi cette règle. C'est, Nadab et Abihu. Dans Nombre 26, verset 61, c'est que Nadab et Abihu moururent lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Donc ils se sont dit, bon, mais du feu, c'est du feu, on peut juste allumer, puis aller mettre le feu là-bas, mais Dieu n'a pas vraiment apprécié ça. De la même manière, nous, on a vu hier qu'on a de l'énergie dans notre corps, qui est sans cesse consumée, l'énergie qu'on a reçue de nos ancêtres, énergie que nous dégageons aussi avec notre exercice, notre nourriture, etc. Mais il ne doit pas avoir de feu étranger, seulement ce qui est directement donné par Dieu. Donc à chaque fois qu'on met du feu étranger dans notre corps, là, avec... les cigarettes et tout, on est en train de violer, on est en train de souiller le temple. Autre chose, Lévitique 10, verset 9, il dit « Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils, avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. » Donc, pas d'alcool dans le sanctuaire. Donc, si pas d'alcool dans le sanctuaire physique, ça veut dire pas d'alcool dans notre sanctuaire, dans notre corps aussi. Donc, ces différentes lois de la santé, on peut les dégager en voyant comment est-ce que Dieu opérait avec le sanctuaire. Les trois parties du sanctuaire, donc on a dit, constituent du lieu saint, du lieu très saint, et puis l'extérieur, c'est le parvis. Donc, quand vous rentrez, une, deux, trois, parvis, lieu saint et lieu très saint. Hier, dans le message qui s'appelait... le chef-d'œuvre de la création, nous avons beaucoup parlé de la cellule. Et la cellule, il y a beaucoup de parties dont on peut parler, mais il y a trois principales parties qui sont la membrane de la cellule, l'extérieur, et ensuite il y a le cytoplasme, et ensuite il y a le noyau. Je ne sais pas si vous voyez que ça ressemble au sanctuaire. Vous avez la clôture du sanctuaire, ensuite vous rentrez, vous avez le parvis, puis vous avez le noyau qui est comme le bâtiment du sanctuaire. Mais maintenant, quand on rentre dans le noyau, il y a une autre subdivision, comme dans le sanctuaire, parce qu'on va aller retrouver le centre du noyau, on va trouver les chromatines, et dans les chromatines, on va trouver notre ADN. Et l'ADN, hier, on a dit, c'est la loi de comment notre corps doit être dirigé. Donc, la même manière qu'il y a la table des 10 commandements dans l'arche de l'Alliance, de la même manière, la loi de Dieu pour notre corps se trouve au centre des cellules, dans le lieu très saint des cellules qui est le noyau. Donc ça fonctionne comme le sanctuaire. Dans le livre Témoignage pour l'Église, volume 2, page 171, paragraphe 2, il y a une déclaration qui est dite au sujet de la maladie. C'est dit, Satan est l'auteur de la maladie, le médecin doit combattre son œuvre et sa puissance. Les maladies de l'esprit règnent partout. Les 9/10 des maux dont souffre l'humanité viennent de là. Les 9/10 des maux dont souffre l'humanité viennent de là, de l'esprit. Maintenant, en ayant lu cela, puis beaucoup sont d'accord avec cette citation, de quelle partie du corps viennent les 9/10 des maux dont souffre l'humanité? Quelle partie? Quelle partie? Le cerveau. Donc si le cerveau, c'est un symbole de l'âge de l'Alliance, c'est-à-dire que les maladies commencent à cause de quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans l'arche de l'Alliance? À cause de la violation de la loi de Dieu. C'est-à-dire 9/10 des maladies que l'on a là, dont les hommes souffrent, c'est parce qu'ils brisent les 10 commandements dans leur tête. Ça commence ici. Par exemple, ils n'observent jamais le sabbat, donc ils travaillent tout le temps, puis ils font des burn-out, parce qu'ils ne se reposent pas. Ou ils adorent toutes sortes de faux dieux qui font qu'ils n'ont pas l'esprit fixé sur le vrai Dieu. Donc ils tombent dans toutes sortes de séductions. Ou parce qu'ils convoitent, ils sont constamment en train de convoiter, donc c'est ça qui leur amène toutes sortes de problèmes. Ou ils sont dans l'adultère ou fornication, c'est ça qui leur amène toutes sortes de MTS. Ou parce qu'ils volent, ou parce qu'ils mentent, etc. Et ça leur amène toutes sortes de problèmes avec des gens dans les familles qui créent des tensions dans le corps et puis qui emmènent des maladies. Donc les 9/10 des maux dont souffre l'humanité, c'est parce qu'à la base, les gens brisent la loi de Dieu, brisent les 10 commandements. Dans le livre Patriarches et Prophètes, on voit ce principe illustré avec le personnage d'Ève et le personnage d'Adam. Page 33, paragraphe 2, s'écrit « Voyant que le fruit de l'arbre... » Donc là, le serpent lui a parlé, lui a suggéré de manger du fruit de l'arbre. Et il y a une description de ce qui s'est passé. S'écrit « Voyant le fruit de l'arbre est bon à manger, agréable à la vue, et qu'il est désirable, puisqu'elle peut donner de l'intelligence, elle en prend et en mange. » Elle se fait tout un scénario sur ce que c'est, alors que ce n'est pas vraiment la réalité. « Le goût en est excellent. » C'est comme tout péché, toute transgression. Les gens ne feraient pas des péchés de transgression s'il n'y avait pas un minimum de plaisir là-dedans. C'est parce que les gens ne voient pas loin les autres conséquences, mais ils doivent avoir un minimum de plaisir, sinon personne n'irait là. Le goût en est excellent. Elle croit ressentir en elle une force vivifiante. Donc c'est comme si, il y a de l'énergie là en mangeant ce fruit. Et s'imagine entrer dans une sphère plus élevée. Donc là, on se demande, qu'est-ce qui est arrivé à Ève pour qu'en faisant quelque chose d'aussi mauvais qui fait que vous et moi, nous sommes là, alors que nous aurions pu tout simplement ne jamais avoir besoin de parler de mots, puis de comment guérir, puis de la santé, parce qu'on serait au ciel et il n'y aurait pas de maladie. Mais en faisant ça, elle s'est sentie bien. Comment ça se fait? On continue, c'est dit, pour toute réponse, Ève l'engage vivement à manger de ce fruit. Elle parle à son mari maintenant pour qu'il en prenne. En lui répétant les paroles du serpent, vous ne mourrez certainement pas. Ce doit être vrai, dit-elle, car je ne ressens aucun signe du déplaisir de Dieu. Au contraire, j'éprouve une sensation délicieuse, donc encore une fois, elle se sentait bien, qui anime tout être d'une vie nouvelle. Bon, voici ce que Ève a senti. Vous avez entendu parler de l'adrénaline? L'adrénaline est une hormone appartenant à la famille des catécholamines. Cette molécule porte aussi le nom d'épinéphrine. L'adrénaline est sécrétée en réponse à un état de stress ou en vue d'une activité physique entraînant une accélération du rythme cardiaque. une augmentation de la vitesse des contractions du cœur, une hausse de la pression artérielle, une dilatation des bronches ainsi que des pupilles. Elle répond à un besoin d'énergie, par exemple pour faire face au danger. Donc là, le serpent lui parlait, elle sentait qu'il y avait un danger, mais la dernière commençait à pomper dans son cœur parce qu'elle dit « Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas ?» Et alors que cette hormone est lancée dans votre cœur, ben, le corps bat plus vite, le sang circule plus vite, vos pupilles se dilatent pour que vous puissiez recevoir plus de lumière, être alerte au danger. Donc ça vous donne une bonne sensation. C'est pour ça qu'elle se sentait bien en mangeant du fruit. Mais c'est plus tard qu'elle en a subi la conséquence. Donc elle a transgressé la loi de Dieu, résultat, grosse sécrétion d'adrénaline pour une courte période et ensuite elle se rend compte des conséquences. Ok, n'oubliez pas, on est en train de voir pourquoi est-ce que le 9 dixième des maux de l'humanité commence en brisant la loi de Dieu. Cette personne a inventé le terme stress, celui qui est venu avec ça, le terme stress. Okay. La mise sous tension du corps, engendrée par les pensées et les émotions négatives, représente un atout pour notre survie. Donc, ça veut dire, lorsqu'on est stressé au début, ça peut être bon parce que ça nous aide à réagir face à une situation. À condition toutefois que cette tension ne dure pas trop longtemps. Car à la longue, des taux trop élevés d'adrénaline abîment le cœur et les vaisseaux sanguins et un accroissement de la production de cortisol finit par provoquer un dérèglement du système immunitaire. Donc au début c'est bon, mais si cette adrénaline, à chaque fois vous êtes en train de briser la loi de Dieu, donc chaque fois vous avez l'adrénaline qui s'injecte dans votre corps, vous en sécrétez, à un moment donné, ce que ça va faire, c'est que ça agresse votre système et ça va dérégler le système immunitaire. Votre système immunitaire devient plus faible, donc la maladie peut rentrer en vous. Est-ce que vous suivez? Donc parce que les gens sont constamment en train de briser la loi de Dieu, leur corps réagit comme ça, leur système est faible et la maladie rentre. Donc ce n'est pas vraiment toujours direct que genre, je brise la loi de Dieu puis le sida me saute dessus, ce n'est pas comme ça. Mais c'est parce que je me mets dans un état où mon corps est propice à recevoir la maladie. Pouvant aboutir à l'emballement des réactions inflammatoires à l'origine de certaines maladies auto-immunes. Sans compter que la mobilisation de l'énergie en vue de la fuite ou du combat empêche toute une série de fonctionnements normaux du corps et à terme fragilise l'organisme et le rendant plus sensible à la maladie, comme on vient de dire. Donc, le principe est illustré ici. Jésus dit cela dans Marc chapitre 3, verset 27. Il dit « Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant fait quoi ? Lier cet homme fort, alors il pillera sa maison. » Donc, l'homme fort, là, je vous fais l'image, l'homme fort, c'est comme la maladie qui vient devant vous. Ben, Jésus dit, personne ne peut rentrer dans cette maison, mais avant, il faut qu'il lie l'homme fort. L'homme fort, ça représente votre système immunitaire. Donc, si vous avez un style de vie qui a déjà lié, mis au sol l'homme fort, ben, le voleur, il a juste à rentrer puis faire ce qu'il a à faire. Parce que notre système est faible à cause de notre style de vie, la maladie rentre facilement. Mais si notre système est fort, il y a peu de chances qu'elle rentre. Les degrés de stress. Donc, sur une échelle de 1 à 100, là, on a différents exemples de comment est-ce que les gens ressentent le stress. La mort d'un conjoint maximum. Donc, ton épouse ou ta femme ou ton mari meurt, là, ça peut être le maximum du niveau de stress que les gens ressentent en général. Le divorce, 73. La séparation conjugale, 65. L'emprisonnement, 65. Le décès d'un proche parent, 63. Blessure ou maladie physique, 53. Mariage, 50. Perte d'emploi, 47. Réconciliation conjugale, 45. Retraite, 45. Maladie du conjoint, 44. Maladie d'un proche, 44. Grossesse, 40. Dans le voyage, j'étais surpris de voir que ça stresse beaucoup d'être enceinte. Naissance 39. Bon. Excusez-moi. Ok. Par contre, la prophétie de Daniel 8, verset 14, dit « Et il me dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. » Donc, lorsque notre corps, qui est le sanctuaire, est souillé, Dieu veut le purifier de la même manière qu'il veut purifier le sanctuaire qui est au ciel. Et il veut le purifier à travers les 8 lois, les 8 principes de la santé, qui sont aussi manifestés dans le sanctuaire. Numéro 1, Donc on a vu nutrition, exercice, eau, soleil, tempérance, air, repos et confiance en Dieu. La tempérance, dans l'autel des sacrifices, ça représente aussi la mort de Jésus-Christ, parce que c'est lui l'animal qui devait, la personne qui devait faire en sorte qu'aucun animal ne continue à être sacrifié. C'est lui le sacrifice par excellence. Donc, de la même manière que Jésus est mort pour nous, lorsqu'on pratique la tempérance, ce que l'on fait, c'est d'apprendre à mourir à nous-mêmes, de maîtriser notre chair. C'est pour ça que l'autel des sacrifices ici est un symbole de la tempérance que nous devons avoir, de maîtriser notre chair. L'eau, bien sûr, par la cuve qui est pleine d'eau. La nutrition, donc la bonne nutrition qui est symbolisée par la table des pains de proposition, mais aussi par ceux qui avaient dans l'arche de l'Alliance. On a dit qu'il y avait les 10 commandements, mais il y avait d'autres choses. Dans Hébreux chapitre 9 et verset 4, c'est écrit « Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. » Donc oui, il y avait les tables de l'Alliance, mais il y avait aussi la manne, il y avait un vase d'or contenant de la manne, et il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri. La verge d'Aaron qui avait fleuri, qu'est-ce qu'elle avait produit exactement? Je vais montrer ça dans Nombre 17. C'est dit, le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron, pour la maison de Lévi, avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Donc, lorsque vous rentrez dans le sanctuaire, vous voyez l'arche de l'Alliance, et que vous voyez le vase contenant la manne, ça représente, vous rappelez, la manne, c'était là comme pour remplacer le pain. Ça représente toutes sortes de céréales que nous pouvons manger. Et de l'autre côté, il y a la verge d'Aaron qui a fleuri et qui a produit du fruit des amandes qui représente une sorte de fruit qu'on peut avoir ou de noix que nous pouvons consommer. C'était ça l'idéal du plan de Dieu au début. Et c'est ce qu'on trouve dans le livre de la Genèse. Dans Genèse 1, verset 29, c'est écrit, Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Donc là, c'est toutes les céréales, toutes les noix qu'on peut manger. Et de toute arbre ayant en lui du fruit de l'arbre portant de la semence. Donc là, c'est tous les fruits que nous pouvons manger. Donc avec céréales, avec les noix, avec les fruits, nous avons toute la nourriture que Dieu devait nous donner au début. Le sanctuaire est là pour représenter notre corps et pour représenter l'idéal divin. Beaucoup de gens se disent, oui, on est en train de prôner que c'est mieux de manger juste ces choses et de ne pas manger de viande. Mais pourquoi est-ce que lorsque Jésus était venu sur terre, il mangeait du poisson? Donc moi, je vais manger de la viande, mais je vais pas manger de viande, mais je vais au moins manger du poisson. Je vais faire comme Jésus, parce qu'on est chrétien, n'est-ce pas? Donc les chrétiens font comme Jésus. Tu manges du poisson. Quelqu'un une fois m'a dit ça, je suis végétarien, mais je mange du poisson parce que je ne considère pas le poisson comme de la chair. Puis il a dit, oui, mais ça a une face. Et ça a une mère. Donc quelque chose qui a une face puis qui a une mère, c'est sûr, c'est de la viande. N'est-ce pas? Donc, si on suit vraiment Jésus dans l'action qu'il a fait, il faut se rappeler que le sanctuaire représente l'action de Jésus. Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, il a marché sur terre et il est mort en sacrifice pour nous. Ensuite, il est ressuscité. Il est monté au ciel pour pouvoir intercéder pour vous et moi. Et maintenant, il est, selon les prophéties, il est rentré dans le lieu très saint pour pouvoir terminer le jugement. Et ensuite, il va revenir. Chacun de ces articles représente une phase de Jésus. Donc, quand il est venu sur terre, son sacrifice, c'est l'autel des sacrifices. Jésus qui est mort pour nous. Ensuite, la cuve des reins avec de l'eau, n'est-ce pas ? Qui représente la résurrection de Jésus. Parce que vous rappelez, quand on vous baptise au nom de Jésus, on veut symboliser votre mort, sa mort et sa résurrection en vous plongeant dans l'eau. Donc l'eau ici représente la résurrection de Jésus. Donc sacrifice, résurrection. Ensuite, il y a le bâtiment qui est le lieu saint. Parce que Jésus n'est pas resté sur terre, il est monté au ciel, dans le sanctuaire. Et il est resté dans le lieu saint où il a intercédé. Et pendant qu'il était au ciel, il communiquait à son église le pain, la table des pains de proposition, la nourriture spirituelle et la lumière aussi pour que son église soit éclairée. Et finalement, lorsqu'il est arrivé dans le lieu très saint, au 19e siècle, là il est rentré là où se trouve l'arche de l'alliance, et il procède au jugement. C'est ce qui est représenté par le dernier article qui est l'arche de l'alliance. Donc si vous suivez Jésus, vous allez comprendre pourquoi est-ce que maintenant on prône ce message. Quand on est dans le parvis, il y a de la viande, oui ou non? Oui, parce qu'il y a l'autel des sacrifices, on sacrifie les animaux. Quand on rentre dans le lieu très saint, dans le lieu saint, pardon, il y a de la viande, oui ou non? Oui, les amis, il y a de la viande. Parce que le prêtre, il prenait une partie de cette viande, il en mangeait, puis il allait dans le lieu saint. Mais lorsqu'on rentre dans le lieu très saint, est-ce qu'il y a de la viande? Non. Où est-ce que Jésus est aujourd'hui? Dans le lieu très saint. Donc si on veut faire comme Jésus, il ne faut pas faire comme Jésus il y a 2000 ans, il faut faire comme Jésus fait aujourd'hui, dans le lieu très saint, sans viande. Si c'est vraiment Jésus que l'on suit. Et autre chose que je pense que je vais vous dire pour vous aider à vous souvenir des articles qui sont dans le sanctuaire, pensez encore à Jésus, pensez au sacrifice qu'il a effectué. Chacun des articles représente un des endroits où Jésus a été blessé lorsqu'il a été crucifié. Vous pouvez, avec l'image du sanctuaire, les articles sont alignés comme une croix. Vous avez l'autel des sacrifices, la cuve d'airain. Ensuite, vous avez l'autel des parfums, puis vous avez l'arche de l'Alliance. Et puis, de ce côté, vous avez la table des pains propositions, et de l'autre côté, vous avez le chandelier. Donc, c'est comme une croix. Chacun des endroits représente un endroit où Jésus a été percé. Jésus a été percé au pied. Ça, c'est l'autel des sacrifices. Jésus a été percé des deux côtés, hein, les deux mains. Ça, c'est la table des pains propositions et le chandelier d'or. Jésus, on lui a mis sur la tête une couronne d'épines qui saignait. Ça, c'est l'arche de l'Alliance. Jésus est mort sur la croix, pas parce qu'il souffrait de toutes ses souffrances physiques, n'est-ce pas? Mais il est mort parce que son cœur a été brisé à cause de nos péchés. Ça, c'est l'autel des parfums. Et finalement, comme Jésus est mort prématurément par rapport aux autres sur la croix, parce qu'il est mort d'un cœur brisé et non des souffrances vraiment de la crucifixion, les soldats romains sont venus pour vérifier s'il était vraiment mort. Et ils ont percé son côté. Dans la cuve des reins, j'ai dit que les sacrificateurs venaient ici et ils se lavaient les mains après avoir tué l'animal. Donc on trouvait à l'autel, la cuve des reins, on trouvait de l'eau et du sang. Et quand les Romains ont percé Jésus ici, qui représente cette partie du corps de Jésus, la Bible dit qu'il est sorti de son corps de l'eau et du sang. Mais si vous gardez ça en tête, ça va être facile de vous souvenir de tous les articles qui sont dans le sanctuaire. La confiance en Dieu. Donc lorsque l'on prie, on exprime notre confiance en Dieu, bien sûr, c'est une des 8 lois de la santé. Dans Ésaïe 26, verset 3, c'est écrit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Les gens ont fait des études, ils se sont penchés, ils sont allés voir des gens malades et se sont demandé comment est-ce que ça se fait-il que ceux qui ont la foi passent mieux à travers la maladie et guérissent plus souvent que ceux qui n'ont pas la foi quand ils se retrouvent à l'hôpital. Donc la confiance en Dieu fait une différence. Une fois, je devais prêcher à l'église de Bethesda, puis j'ai vu la télévision qui arrivait pour filmer ce qui se passait dans le culte. Je me dis, pourquoi est-ce qu'ils sont là? Mais ils sont là parce qu'il y avait une des sœurs de l'église qui était à l'hôpital et qui avait, sa condition s'était vraiment améliorée, qui vivait la maladie d'une façon extraordinaire que les gens n'arrivaient pas à comprendre à cause de sa foi. Et à cause de son témoignage à elle, ils sont venus à l'église pour filmer. Ça se passe comment dans l'église de cette dame-là? Alors moi, je suis venu, je me suis dit, bon, peut-être qu'ils vont filmer quand je vais prêcher, mais ils ont juste filmé les gens chanter puis ils sont partis. Le soleil, l'air et l'exercice. Quand on fait de l'exercice, on brûle plus de d'oxygène et on dégage du CO2, donc c'est représenté par cette lumière ici, l'air, l'exercice, le soleil, la lumière, tout ça on trouve dans le chandelier d'or avec les 7 lampes. Le repos. Donc dans la table des 10 commandements, il y a le 4e commandement qui est le sabbat, n'est-ce pas, qui illustre le repos comme on l'a vu au début avec notre image pour l'Exode. Donc le repos se trouve illustré dans le sanctuaire aussi. Dans Exode 15, verset 26, c'est écrit, il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Mais là, il dit, « Si, voyez la condition, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, je ne te frapperai d'aucune des maladies. » Donc ici, le lien est fait entre observer les commandements versus être affecté par la maladie. Comme on l'a dit, 9 dixièmes des maux dont souffre l'humanité commencent ici parce que les gens brisent la loi de Dieu, donc ne suivent pas les commandements. Par conséquent, ils sont affectés par la maladie. Donc la promesse de Dieu ici n'est pas farfelue. Tu ne vas pas être touché si tu suis les commandements. Et on comprend pourquoi. Parce que le fait de briser la loi de Dieu déclenche un stress intense dans notre corps qui déclenche une sécrétion d'adrénaline constante qui fait que notre système immunitaire est faible et que la maladie pénètre sans difficulté. Proverbe 15, verset 13. Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Proverbe 17, verset 22. Dit un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Alors, ça c'est une belle image. J'ai mis ça juste parce que c'est une belle image. Jésus dit, dans Jean chapitre 14 et le verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Je trouve intéressant que ce qu'il décrit est en trois parties. « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Comme le sanctuaire. Jésus est le chemin vers le lieu très saint. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et effectivement, lorsqu'on arrive dans le lieu très saint, que l'on est capable d'être face à face à la présence de Dieu, c'est là que nous avons la vie, que notre vie éternelle est garantie. Donc Jésus nous appelle à observer les principes qu'il nous a donnés dans sa parole pour que notre temple soit en bonne santé, pour que notre temple soit purifié au cas où il est souillé. Les principes qui ont été donnés sont vieux comme le monde, et les principes qui ont été donnés sont simples. Il y a des conseils de professionnels, mais il y a des choses très simples que nous pouvons suivre pour que la santé ne soit pas une question de chance, mais que ce soit une question de choix. Là-dessus, nous allons prier pour clôturer la séance de ce soir. Et j'invite les gens à venir en avant, après quoi nous allons chanter le dernier chant. Et je vous inviterai ensuite à venir demain soir à la même heure pour la suite du programme. Levez-vous et courbons la tête pour la prière. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce que tu nous as donné dans ta parole comme instruction afin que nous ne soyons pas ignorants au sujet de comment est-ce que nous pouvons être en meilleure santé. Seigneur, tu veux que notre témoignage puisse être la preuve que ces principes sont vrais, que ces principes sont justes, que ces principes fonctionnent vraiment. Mais graduellement, Seigneur, mais sûrement, nous voulons commencer à mettre en pratique toutes ces choses pour qu'on voit un produit efficace et que ce soit la preuve que ce que tu as dit est vraiment inspiré. Que ton Esprit Saint soit avec nous pour tout le reste de la campagne, alors que nous allons pencher sur divers sujets, et que les âmes soient touchées pour ta gloire et pour ta gloire seulement, et que nous retrouvions tous parmi ces personnes qui auront la vie, pas juste la vie présente, mais la vie éternelle, lorsque tu reviendras et que nous pourrons nous tenir face à face devant toi et subsister. Encore merci pour tout, renvoie chaque personne ici avec ta paix et ta bénédiction. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous t'avons prié. Amen.